Bien. Bonjour à tous et à toutes pour cette table ronde autour des romans ésotériques. On nous cache tout, on ne nous dit rien. On va bien savoir qu'est-ce qui suscite cet engouement, aussi bien de la part des écrivains. Pourquoi choisir le contexte de l'ésotérisme? On va définir également ce que c'est. Comme soutien d'une intrigue, comme fond à une intrigue. Et de la part de vous, lecteurs, pourquoi s'intéresser à l'ésotérisme? Pourquoi s'intéresser à ces mystères qui nous donnent l'impression parfois qu'il y a un complot, qu'il y a des personnes qui savent, qu'on nous cache tout? Alors, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Éric Giacometti, qui est venu sans Jacques Ravenne. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont lu Les policiers, en particulier du commissaire qui est franc-maçon et qui en plus va découvrir à chaque fois des secrets de l'histoire, des légendes dont on entendait parler mais qui ont des conséquences dans la vie réelle. Donc on est en plein dans la théorie qu'il y a des choses cachées qu'on maîtrise mal et que d'un seul coup c'est une société secrète qui explique pourquoi il y a des choses bizarres autour de nous. Et Matt Verdier qui a écrit un premier roman qui est complètement dans la logique de l'ésotérisme qui se passe autour de ce qui se passe dans l'Église catholique, on y reviendra, qui va pouvoir nous expliquer aussi qu'est-ce qui l'a conduit à utiliser ce support comme trame de roman. Et enfin, puisqu'ils sont partout, et nous avons Jacques Vielbezet qui est auteur, et nous avons également autour de cette table Alain-Jacques Laclos, qui est éditeur, en particulier de l'ésotérisme. Donc, ils sont vraiment partout. Bien, je vais demander tout d'abord peut-être à Éric de nous expliquer mais c'est quoi exactement l'ésotérisme?
Oula, alors l'ésotérisme en fait c'est, vous avez l'ésotérisme, ce qui est ésotérique et ce qui est exotérique. Ce qui est ésotérique c'est ce qui est censé être caché, voilà. Je vais vous donner un exemple, tout le monde connaît la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, vous avez une lecture exotérique, c'est-à-dire la lecture quand on apprend, ceux qui ont fait le catéchisme ou ceux qui sont chrétiens apprennent la Bible. Et vous avez une lecture ésotérique qui est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un message caché derrière le message officiel? Et cette démarche ésotérique, par extrapolation, vous l'avez pour d'autres grandes religions, comme le judaïsme, mais aussi dans l'islam. Vous l'avez aussi dans des traditions initiatiques, comme la maçonnerie. Et vous l'avez, au cours de l'histoire, à certaines périodes, avec des courants de pensée qui s'inscrivaient dans cette tradition ésotérique. Alors, vous aviez raison de dire, effectivement, c'est par essence quelque chose de caché. Et ce quelque chose de caché, par différentes expériences, que ce soit une expérience rationnelle, intellectuelle, par le décryptage de symboles, vous pouvez accéder à cette vérité. Ou alors, c'est par des expériences un peu plus mystiques, par des expériences qui seraient proches d'un sentiment religieux, vous pouvez accéder à ce plan-là.
Et pourquoi utiliser ce ressort? Qu'est-ce qui vous a amené à un moment à utiliser ce ressort un peu de choses cachées?
Alors, en fait, avec Jacques Ravenne, qui est franc-maçon, qui est mon co-auteur, qui est maître au Grand Orient, en fait, on se connaît depuis l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, on dévorait toute cette littérature qui nous paraît de templiers, d'alchimistes, de Rose-Croix, de Rennes-le-Château. Et à 16 ans, on allait dans les châteaux cathares pour essayer de découvrir le Graal. À 17 ans, on partait à Gisors pour essayer de découvrir le trésor des Templiers. On y croyait vraiment, on prenait ça au pied de la lettre. Et ça nous fascinait. Ça nous fascinait pourquoi? Parce que notre quotidien, quand on est adolescent, parfois on a l'impression que le monde est terne, le monde est gris. Et à l'époque, il n'y avait pas toute cette littérature de fantasy, de fantastique. Il y avait de la SF, mais on ne s'y reconnaissait pas. Et on avait besoin, à un moment donné, d'irruption de quelque chose de fantastique dans notre quotidien, dans le réel. Et l'ésotérisme, c'était ça. C'était à un moment donné, et si c'était vrai? Et si, quand on va dans des ruines d'un château cathare à Montségur, quand on y passe deux jours, quand on dort dans le coin, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas découvrir une porte secrète qui va nous mener vers un autre univers ? Je pense que la différence entre l'ésotérisme et le fantastique, puisqu'à l'époque, j'étais aussi lecteur de fantastique, c'est que le fantastique, une fois que je fermais un bouquin, je me disais « ça n'existe pas ». Je lisais Anne Rice, qui était l'auteur qui a donné, je pense, de la noblesse au vampirisme. Je lisais Lovecraft, je lisais des gens comme ça, mais je savais qu'en finissant, il n'y avait rien de vrai. Alors que l'ésotérisme, il y a quelque chose, on se disait « et pourquoi pas ?» Donc, c'est, en fait, c'était une traversée du miroir. C'était à un moment donné, c'est possible, il y a peut-être quelque chose derrière.
Matt Verdier, pour vous, est-ce que c'est un peu la même démarche à la base qui vous a attiré vers l'utilisation de l'ésotérisme dans un roman, ou est-ce que c'est même l'attrait pour l'ésotérisme qui vous a poussé à écrire un roman ? Comment ça s'est passé ?
En fait, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par les mythes, les légendes anciennes, voilà, tout ce qui est un petit peu poussiéreux, tous les coins d'ombre, et pas forcément en fait pour les faits, pour ce qui s'est passé, c'est la même chose pour l'histoire, mais plus pour ce que ça a véhiculé, pour les ambiances, pour les odeurs que ça peut véhiculer, les couleurs, les contrastes, les clairs-obscurs, voilà. Donc c'est vraiment ce que je recherche. J'ai pas forcément une culture du fait, mais plus une culture de l'émotion, quoi. Donc voilà, et effectivement, bah, l'ésotérisme, tout ce qui est occultisme, c'est un super outil pour ça. J'y suis venu assez naturellement, en fait. Je me suis pas vraiment posé la question, mais
donc il s'agissait en fait de retranscrire un imaginaire que vous étiez composé petit à petit en découvrant ces lieux cachés.
Ouais, complètement. C'était une manière de voir le monde. De voir l'envers du décor, de chercher des... En fait, je n'aime pas spécialement les réponses, j'aime bien les questions. Donc, quand je me pose une question, c'est bien, la réponse, c'est sympa, mais j'aime bien quand ça génère d'autres questions. Et voilà, je suis un chercheur de questions, donc voilà, voilà. Tout simplement.
Et pour vous, Jacques Vielbezet, Alain Jacques Laclos, l'un ou l'autre peuvent répondre. Comme vous dirigez, vous éditez des romans ésotériques, des bandes dessinées ésotériques, qu'est-ce qui explique quand même cet engouement pour ce type
de roman ?
Oui, ce type d'histoire.
Mais je crois que toutes les traditions, et on ne va pas prendre la franc-maçonnerie, ou je la prendrai après, mais prenons les alchimistes. Alors, pour définir l'ésotérisme, si on prend les textes qui nous restent de cette philosophie par le feu, il y a des textes, et il y a des textes alchimiques, et il se trouve que ce qui est raconté dans ces textes alchimiques ne peut pas et ne doit pas être interprété au premier degré. C'est-à-dire que le langage est codé. Alors, il y a la langue des oiseaux, qui est basée donc sur la phonétique, etc. C'est-à-dire, il y a un sens derrière le sens apparent. Et si on prend... Alors déjà, ça, on est en plein ésotérisme tel que l'a défini notre ami Eric. Mais si on continue sur l'alchimie, envisager qu'il y ait des gens qui puissent transformer le plomb en or, déjà en soi, c'est, je ne sais pas si c'est ésotérique, mais c'est merveilleux. Mais en fait, le fait de transformer le plomb en or, ça n'est pas vrai. Les alchimistes n'ont jamais cherché à transformer le plomb en or, parce que là aussi, c'est une allégorie. Donc, ça n'est pas ce qu'ils disent qu'ils font, puisque changer le plomb en or, c'est accéder à l'élixir de l'immortalité. Et l'or dont il s'agit n'est pas le métal, mais c'est cet élixir qui donne l'immortalité. Donc vous voyez, en trois phrases, on est à quatre niveaux de langage différents. Et c'est un peu ce que disait notre ami. La réponse, on ne l'a pas, mais on ouvre une porte qui ouvre sur une autre porte, qui ouvre sur une autre porte, et peut-être sans fin. Et pour la maçonnerie, en deux mots, les francs-maçons ont à la fois... inventer les jeux de rôle dont on est le héros, parce que des mecs qui sont pharmaciens et qui se prennent pour des chevaliers, c'est déjà pas triste. Et ils y croient, hein. Moi, je connais plein de pharmaciens qui se prennent pour des chevaliers, et d'ailleurs, ils le sont en maçonnerie. Donc, et ils le font à travers, vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, ils le font à tout le parcours initiatique d'un franc-maçon, c'est une série de légendes. Et c'est des légendes absolument extraordinaires, qui sont basées sur la Bible, mais les francs-maçons, quand ils ont inventé ces légendes, je dis bien quand ils les ont inventées au XVIIIe siècle, ils avaient beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc ils ont raconté qu'ils étaient les héritiers des Templiers parce que ça faisait joli, ils ont raconté qu'ils étaient les héritiers de Noé, parce que c'est quand même pas mal d'être l'héritier de Noé. Donc ils ont constitué ce que moi j'appelle la malle au trésor de l'imaginaire maçonnique. Et cette malle, elle est pour le coup fantastique. Et il se trouve que... Alors, est-ce que c'est Dan Brown qui a inventé le genre ? Non. Le genre, il existe bien avant Dan Brown. Mais il se trouve qu'il y a là, dans cette malle au trésor de l'imaginaire maçonnique, un fantastique matériau sur lequel des auteurs comme Eric Giacometti et Jacques Raven, par exemple en France, sont les meilleurs représentants. Ils puisent dans cette malle au trésor. Et il puise une des légendes et il raconte une histoire sur cette légende. C'est-à-dire, ils font un peu du surf sur une des légendes de la maçonnerie ou sur une des problématiques de la maçonnerie. Et en ce moment où, au XXe siècle, fin de XXe siècle, ça va pas bien, eh ben on a plus que jamais besoin de se raconter de belles histoires, c'est-à-dire de réenchanter le monde.
Alors, l'imaginaire, effectivement, a un sens à jouer. On en parlait lors d'une autre table ronde, je crois, l'an passé. Le réel, parfois, n'a pas de sens. Et ce n'est pas rassurant d'être dans un monde qui n'a pas de sens. Et souvent, ces légendes donnent un sens à ce qui nous arrive. Parfois, il y a la religion qui peut en donner un, et l'ésotérisme et les légendes cachées peuvent également donner un sens. Vous avez des fois l'impression comme ça que dans vos histoires, on va rechercher un sens à des aventures, des choses, des faits qui se passent, de l'actualité.
En fait, quand vous lisez, je crois qu'il faut bien comprendre qu'un thriller ésotérique, avant tout, c'est un thriller. C'est de la fiction. Bon. Quand Dan Brown est arrivé avec le Da Vinci Code, ça a été un raz-de-marée. Et beaucoup d'observateurs, de critiques n'ont rien compris. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En gros, ce thriller nous raconte que Jésus a une descendance, que la fille cachée de Jésus existe parmi nous, et que c'est Léonard de Vinci qui a le secret. Et ça a perturbé beaucoup d'observateurs et de critiques littéraires. Ils se sont dit, mais c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Or, les lecteurs, quand les lecteurs ont adoré, les lecteurs font la part des choses parce que c'est du thriller. Simplement, Dan Brown s'est aspiré, il a pris, comme toi, ce que tu as dit, il a pris dans une malle au trésor, il a pioché, et il en a extirpé, fait une quintessence qui fait ça a marché, et ça a marché d'un point de vue. Le Da Vinci Code, je crois, s'est vendu à... de 200 millions d'exemplaires, je ne veux pas dire de bêtises, c'est planétaire, c'est bon. Et les gens, quand on voit un peu les gens, pourquoi ils ont adoré, c'est d'abord ça les a fait rêver, hein. Tout d'un coup, on est dans une civilisation judéo-chrétienne, et tout d'un coup, il vient et il nous parle de choses qui ont baigné notre univers culturel, et exactement, il a réenchanté. Et si Jésus avait une descendance ? Mais en soi, d'un point de vue rationnel, et on va être sur le plan purement rationnel, c'est pas plus absurde que de dire que Jésus, qui était un homme, n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme. C'est pas plus absurde. Enfin, je vois pas en quoi Jésus, qui était un... Si tant est qu'on croit au Christ, parce qu'encore une fois, d'un point de vue historique, on peut se poser des questions, mais si tant est que cette personne ait existé, soit on considère que c'est le Fils de Dieu, que c'était un être immanent, et donc on est dans la religiosité pure, et je respecte cette croyance. À la base, je suis catholique, j'ai été baptisé. Soit vous vous dites, ça peut être aussi quelqu'un qui, à un moment donné, qui était une personne qui a eu une mission, un savoir à transmettre et qui a fondé une nouvelle religion, mais c'était un homme avec ses pulsions. Et je ne vois pas en quoi c'est absurde de dire qu'il aurait pu avoir un enfant avec Marie-Madeleine. Moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Ça me paraît tout aussi cohérent de dire qu'il guérissait qu'il a, ou qu'il a fait ressusciter Lazare. On est dans le domaine, dans un flou. Bon. Donc à partir de là, vous en faites un thriller. Et dans ce thriller-là, bah, du coup, vous explorez toute cette possibilité. Alors, lui, il a un peu juste poussé le bouchon parce qu'il a dit que toute cette histoire partait de documents authentiques. Quand on connaît l'histoire dont s'est inspiré Dan Brown, c'est l'histoire de Reine le Château, non, les documents étaient faux. Mais à la rigueur, peu importe, les gens ont passé un bon moment, et voilà. Donc, ce qui fait que quand on est dans le thriller ésotérique, eh ben, nos lecteurs partagent avec nous ces codes. Et s'il y a peut-être 2 ou 3% qui croient vraiment que dans Apocalypse, par exemple, la tombe de Marie-Madeleine est située quelque part sous l'église de Rennes-le-Château, tant mieux pour eux. Mais une autre partie de nos lecteurs, une majorité, savent très bien que c'est faux, que c'est notre imagination. Donc, c'est de la même façon, et je pense qu'il faut un peu ne pas avoir peur du thriller ésotérique, parce que beaucoup de gens en ont peur. Le thriller, c'est comme un thriller médical, comme un thriller financier, comme tout type de thriller. On n'a pas le même matériau. À un moment donné, on s'appuie sur des légendes historiques, voire sur des faits historiques. On révèle, en revanche, des choses qui ont vraiment existé ou pas. Et voilà. Et après, je dis, c'est au lecteur de se faire son opinion, tout en réenchantant son quotidien. Moi, je suis lecteur de thriller ésotérique, tout simplement, bien avant d'être écrivain, parce que j'adorais ça, ça me fascinait. Quand, par exemple, on parle du Vatican, des coulisses secrètes du Vatican, ça me fascine, ça m'a toujours fasciné. Quand on parlait des Templiers, je trouvais ça fascinant. Les francs-maçons, quand j'étais jeune, je trouvais ça fascinant. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se réunissent dans un temple, qui interdisent, qui ferment les portes aux profanes, qui se mettent des tabliers, et on voit des symboles avec un œil dans un triangle, une tête de mort, des choses comme ça. C'est pas ordinaire.
Qu'est-ce qu'ils ont à dire,
Jacques ? Je précise, vous en avez un, cet homme est un vrai franc-maçon, 100% qu'il l'assume. Donc n'hésitez pas, si après vous avez des questions sur la maçonnerie, vous avez l'homme sous la main.
Je voudrais partir de Dan Brown. Là, en fait, Dan Brown n'a rien inventé. La légende de la femme de Jésus, elle existe dans les textes qui sont disponibles depuis à peu près la naissance du christianisme. Et cette légende de la femme de Jésus, elle ressurgit, je dirais, selon un cycle plus ou moins long, de siècle en siècle, depuis à peu près 20 siècles. Ça, c'est pour. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'un auteur de fiction part toujours de légendes qu'il puise, alors ça pourrait être, là on est dans l'univers occidental, mais après tout ça pourrait être en Asie, ça pourrait être, etc. Et je crois que ce qui fait le succès de ces thrillers ésotériques, alors il y a plein de conditions pour qu'il y ait succès, mais il y en a au moins une, c'est qu'il faut que l'histoire que raconte l'écrivain soit en résonance avec une légende qui vient de très très loin. Et ça a été justement le cas de Dan Brown. Mais puisque légende chrétienne, il y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle Didier Convard qui avait écrit Le Triangle Secret avant Dan Brown. Et quand il a écrit le roman en France, tout le monde, tous les éditeurs lui avaient dit « Écoute Didier, ton histoire de frère de Jésus, de Templiers et de francs-maçons, c'était en 1999, ça ne marchera jamais. » Et en 2003 ou 2004 est arrivé Dan Brown. Je vous rassure, entre-temps, il n'avait pas fait le roman, mais il avait fait une BD qui, à chaque tome, se vendait à 150 000 exemplaires.
Et donc, puisqu'on en est à parler de cet autre mal au trésor de légende qu'est le christianisme et la religion catholique en particulier, peut-être, Matt Verdier, vous pourriez nous dire un peu, en dire un peu plus en lisant un passage de votre livre qui pose le début d'une question qui sera abordée dans votre roman.
Seigneur, j'ai à te dire, à toi et à toi seul.
Peut-être juste, oui, dire, juste... c'est une lettre, voilà,
en fait,
c'est une lettre.
Autant pour moi, c'est une lettre adressée à Dieu, écrite par une cardinale, puisque à cette époque-là, les femmes ont accès au Vatican, à la haute autorité, et puis voilà, donc elle s'adresse à Dieu en lui demandant pardon en quelque sorte pour ce qu'elle va commettre, et puis bah, vous allez peut-être comprendre, voilà. Seigneur, j'ai à te dire, à toi et à toi seul. Je ne cherche pas ta clémence, car ce que j'ai commis est impardonnable. Peut-être accepteras-tu seulement d'admettre la noirceur de mon âme, au bout d'un long chemin de réflexion. N'est-ce pas là ta force ? Comprendre ce que l'homme ne peut envisager ? Le péché originel, Seigneur Tout-Puissant, n'a jamais quitté mon esprit depuis l'engagement que j'ai pris d'être à tes côtés pour l'éternité. Mais aujourd'hui, après 87 ans passés sur terre, je ressens tout le poids de ce message, toute l'ampleur de la tâche qu'est la tienne. Oui, l'humanité naît bel et bien souillée, corrompue, et seuls les plus braves et les plus passionnés parviennent à se laver de leur fardeau. Le baptême, hélas, ne nous est plus d'aucun secours. Nos sacrements ne sont plus que les artifices d'une grotesque fresque où se mêlent onction et distraction. Notre belle Église souffre tant. J'ignore si mon devoir de purification est accompli, mais une chose me semble limpide désormais. Je dois à nouveau goûter aux fruits défendus, replonger les mains dans la litière du Très-Bas pour le salut de tes fidèles. Dans quelques heures, le lancement du projet Yeshua sonnera le glas pour la chrétienté. Quelle qu'en soit l'issue, cette mission engendrera l'explosion de la sphère protectrice que nous avons mis plus de 2000 ans à bâtir, afin d'aider l'homme dans sa quête perpétuelle du bonheur. Alors, je ne te demande pas l'absolution, mais seulement un peu de ta force. Nous devons venir à bout de cette science perfide et incertaine, cette matrice affamée qui absorbe la raison des hommes pour les asservir. En 15 ans d'existence, le World Spark a modifié le cours de notre histoire, bafoué la mémoire de nos ancêtres pour la remplacer par des données strictes et matérielles. La science plus puissante que le divin, plus précise aussi. Et voilà que l'Église, désormais corrompue jusqu'au sang, se range derrière cette chimère aveuglée par l'éclat de l'or. Comment ne pas réagir ? Il me faudra de ta force, oui, mais une parcelle de pouvoir ne sera pas trop pour être accréditée par mes pairs. C'est pourquoi je romps ce jour le pontificat de celui qui a ouvert la porte aux armées du grand déclin, sa sainteté, le pape Célice Ier, l'homme aux noires ambitions. À l'heure qu'il est, son âme est en chemin pour venir te rejoindre. Accueille-le, Seigneur. Donne-lui les réponses aux questions qu'il sera en droit de te poser. Lorsque le conclave aura lieu, qu'il nous faudra élire un nouveau guide, je mettrai les cardinaux électeurs face à leurs responsabilités. Là, ils assimileront la vacance du trône de Saint-Pierre à leur seule faute d'avoir voulu mettre un visage sur le nom de Jésus-Christ, ton Fils. À cet instant, ils sauront faire un choix pour notre Église et saisiront l'opportunité de redorer son blason en plaçant une femme à sa tête. La bête noire que je suis deviendra la main de la lucidité, l'archange du renouveau. Au lendemain de mon élection, à ce moment précis seulement, je ferai le nécessaire pour mettre fin à la quête malsaine du World Spark. Je n'appartiens plus à l'Église, je n'appartiens plus à rien si ce n'est à toi. Accorde-moi ta confiance et je saurai te le rendre.
Bien. Donc, que se passe-t-il au sein de l'Église catholique ? Peut-être que ce qui semble être au centre, à savoir le Vatican, est sans doute le sein des secrets les mieux cachés, puisque finalement, il n'y a pas mieux que de mettre quelque chose au centre pour y mettre des secrets.
Oui, c'est vrai que là, le Vatican est dans une position un petit peu particulière parce qu'il a accepté qu'on aille biographier le Christ, puisque le roman se passe dans quelques décennies. En fait, on a découvert la possibilité de voyager dans le temps. Et donc, il y a un programme qui est lancé, qui s'appelle le projet Yeshua, et qui vise à aller biographier le Christ. Et donc, voilà, l'Église se déchire de l'intérieur parce qu'il y a une partie qui est pour, et notamment le pape en place, et une partie qui est contre, et notamment la cardinale qui écrit cette lettre, ce programme est simplement impensable, inimaginable. Donc voilà, on est dans un...
Alors là, on touche quand même un des problèmes des romans ésotériques, à savoir, on fonde une partie d'une structure de pensée sur des légendes, alors que ce soit les légendes de la maçonnerie ou la Bible, je dis bien des légendes, puisque, quelle que soit notre croyance, les écrits sont toujours des histoires qui sont amenées aussi à être lues d'une manière avec un sens caché, mais ça reste des légendes dont on a besoin pour construire un mode de pensée. Mais à partir du moment où on veut rechercher la réalité de ces légendes, est-ce qu'on ne risque pas de tout détruire, de détruire une façon d'envisager le monde ?
Bah, je pense que la raison pour laquelle ce genre de genre vraiment a du succès, c'est parce que justement on a besoin de se poser des questions. Enfin, on a besoin de trouver d'autres réponses à la réalité d'aujourd'hui. Quoi. C'est vrai que les gens peut-être ont une vie un peu trop lisse aujourd'hui. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, c'est pas vrai pour tous les pays du monde. Mais peut-être que l'Occident, à force de vouloir accéder au confort, diminuer les risques, passer de la survie à la vie, a rendu la vie de ses habitants un peu trop lisse. Et justement, ce procédé permet de se mettre un peu en risque, d'imaginer justement que tout n'est pas si lisse, si clair qu'on veut bien le croire. Quoi. Donc voilà.
Et en écrivant le roman, j'essaie d'imaginer. Donc, vous étiez déjà vous-même à la recherche de réponses ou dans un questionnement par rapport à ces choses cachées. Et souvent, un écrivain, quand il est pris par son roman, il a des surprises. Il découvre des choses. Est-ce que c'est un peu ce qui s'est passé, puisque finalement, vous avez construit l'univers dans lequel aller à la recherche d'un sens caché qui vous intriguait déjà personnellement? Est-ce que vous y avez trouvé des choses?
En fait, clairement, la fin qui est dans le livre définitif, ce n'est pas celle qui était prévue initialement. Voilà.
D'accord.
Donc oui, effectivement, j'ai trouvé des réponses à des questions que je ne m'étais même pas posées en commençant le livre. Donc effectivement, les personnages m'ont peut-être soufflé ces réponses. Et d'autres questions encore. Voilà, donc ça s'est construit en fait. J'ai pas fait de plan, de structure particulière. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi j'ai mis du temps à l'écrire. Mais voilà, le livre s'est nourri de lui-même, les personnages se sont nourris d'eux-mêmes. Et voilà, tout s'est construit de cette manière, en s'imbriquant au fur et à mesure.
Et maintenant, vous avez quelques réponses ou alors encore plus de questions pour construire d'autres romans?
J'ai encore plus de questions et c'est ça qui est génial. C'est que plus on se pose de questions, plus on se pose de questions. Enfin, pour moi, c'est comme ça, c'est presque horrible. Mais voilà, c'est un besoin. Donc oui, je cherche encore d'autres réponses, d'autres questions dans mon prochain roman qui, cette fois-ci, là, on est sur le plan du Christ. La prochaine fois, on passe de l'autre côté, le plan de l'Antéchrist. Et voilà, c'est encore une autre question, un autre versant de l'histoire.
Et pour revenir à cette frontière entre les questions, la réalité, la légende, Éric Giacometti, je crois que vous travaillez sur un nouveau sujet sur les Illuminati. Et on en parlait tout à l'heure, là autour des Illuminati, la frontière entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un complot, est-ce qu'il est très flou même dans ce qui circule dans les réseaux d'information, en particulier sur Internet, on a des informations contradictoires. Et la frontière entre est-ce réel, est-ce qu'il y a vraiment un complot, est-ce qu'il y a des gens qui maîtrisent le monde? Quel est le rôle du romancier dans ce contexte où la frontière théorie du complot et réalité du complot est un peu floue?
Alors, notre prochain livre sortira le 12 juin, Le règne des Illuminati. Donc, on s'attaque aux Illuminati. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ans, on avait fini le 7e Templier et pendant les dédicaces, des jeunes venaient nous voir en nous disant « Mais pourquoi vous ne parlez jamais des Illuminati ?» Ça remonte à il y a 3 ans. Et on leur a demandé pourquoi, ils nous ont dit, on en parle beaucoup sur le net, il y a des chanteuses comme Beyoncé, comme Rihanna, qui utilisent des symboles Illuminati, des rappeurs font des textes en disant, les Illuminati dominent le monde. Bon, donc on s'est immergé là-dedans, et pour beaucoup, ils avaient l'impression que les Illuminati, c'était aussi des francs-maçons. Bon. Donc il faut savoir, je vous cadrerai sur les Illuminati pour voir où on est, quand vous tapez le mot Illuminati sur Google, c'est 13 millions de requêtes. 13 millions. Quand vous tapez franc-maçon, c'est 3 millions. Donc les Illuminati, c'est vrai que c'est la star, on va dire, des théories du complot. On explose tout. Et il se trouve qu'il y a 4 jours, L'AFP a sorti une longue dépêche sur le fait que les jeunes sont de plus en plus séduits par la théorie du complot et derrière ça croient à l'existence des Illuminati. Alors, je vais vous répondre une question très claire. Nous sommes des auteurs de fiction, donc on n'a pas de vérité révélée à révéler. Si vous croyez aux Illuminati, vous pouvez y croire, ça ne dérange pas. Nous, on vous donne simplement des éléments à travers une fiction. Et les éléments, c'est quoi? C'est que les Illuminati ont réellement existé. C'est une société secrète qui a été fondée en 1776 en Bavière par un certain Adam Weishaupt, qui était une société secrète initiatique avec une sorte de décorum maçonnique avec des symboles. Et c'était une société secrète subversive, c'est-à-dire elle voulait mettre à bas la royauté et l'Église. Ces gens-là ont infiltré le pouvoir en Bavière et ont été démasqués. L'ordre a été décapité. À l'époque, ça a été un immense scandale en Europe. Les gazettes, ça venait jusqu'en France, jusqu'à Versailles, où même on a des traces où l'aristocratie française était paniquée en se disant « Mais est-ce qu'on a aussi des illuminés chez nous ?» Bon.
Des illuminés, pas des illuminés.
Oui, parce que la traduction, à l'époque, on parlait d'illuminatène en Bavière et ça devenait des illuminés. Et par ailleurs, vous aviez un autre groupe d'illuminés maçonnique, paramaçonnique, qui était lié, qui existait vraiment, qui était vraiment dans une démarche beaucoup plus, on va dire, ésotérique. Donc c'était à cette période, on était au siècle des Lumières, vous aviez d'un côté des Illuminati de Bavière qui voulaient renverser la royauté et le christianisme, et des Illuminés qui voulaient aussi accéder à une démarche plus ésotérique. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, puisque l'ordre a été décapité. Simplement, en 1797, vous aviez un jésuite qui s'appelait le père Augustin Baruel, qui s'est enfui à Londres, qui était un prêtre réfractaire, et qui a écrit un best-seller à l'époque, qui s'appelait « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme », où il attaquait la Révolution française, et il disait en gros que la Révolution française avait été provoquée par les philosophes, Voltaire, Diderot, par les francs-maçons, mais surtout par les Illuminati. Et de là naît la légende noire des Illuminati. Les Illuminati auraient survécu à leur anéantissement, un peu comme les Templiers qui auraient survécu à la décapitation, quand l'ordre a été interdit. Et ça a surgi, ça a perduré pendant des siècles. Et ça nous est revenu des États-Unis, très récemment, on va dire dans les années 80, où là, le mythe Illuminati est revenu. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, ce complot Illuminati s'était resté. Il y avait eu aussi des livres à l'époque, à la fin du 18e et du 19e, sur ce complot Illuminati. Et pourquoi ça fascine les jeunes générations? Parce que ces Illuminati auraient pu rester avec des bouquins, avec quelques films. Non, tout d'un coup, des stars de la pop comme Beyoncé et Rihanna ont utilisé, vous savez, le triangle dans l'œil. Et quand vous assistez à des concerts de Beyoncé, à un moment donné, vous aviez... L'œil dans le triangle, pardon. Vous aviez... Tout le monde faisait ce signe avec ça. Donc, vous imaginez, tout d'un coup, ça devient immensément populaire. Vous rajoutez à ça le billet de 1 dollar, le fameux billet de 1 dollar, où vous voyez une pyramide tronquée avec au-dessus un œil, avec des signes un peu bizarres. Et vous avez tous les ingrédients pour dire, mais après tout, peut-être que les Illuminati ont survécu. Ce qui est, en soi, on peut se poser légitimement la question. Donc nous, en tant qu'auteurs de fiction, eh bien, on se pose la question, on utilise ce matériau, mais après, on dit bien aux gens, vous êtes dans de la fiction.
D'accord, donc il y a eu l'utilisation des symboles et des légendes dans de la variété très populaire, ce qui fait que ça redonnait de la vie à cette légende. Ça ressemble aussi un petit peu à certains symboles du hard rock qui se réfèrent à certains mythes sataniques.
Oui, c'est ça, on est dans une esthétique.
Voilà, il y a l'esthétique, oui, tout
voilà,
à fait.
C'est comme et du coup, par exemple, c'est comme si vous êtes attiré, si vous aimez cette esthétique, évidemment, vous vous y plongez. Ce n'est pas pour autant que vous allez pratiquer quand vous écoutez du hard rock. Que vous aimez cette esthétique satanique, c'est pas pour ça que vous allez faire des messes noires. Quand je voyais tout à l'heure, je discutais avec des vampires qui étaient là, on discutait tranquillement, ils étaient superbes, ils incarnaient cette esthétique gothique, et particulièrement vampires, que j'ai connus il y a très longtemps quand j'étais plus jeune, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller kidnapper des enfants et boire leur sang derrière les tentes. C'est toujours pareil. Je pense que c'est une autre part de réalité, mais justement... on prend du recul aussi. Donc très souvent, moi, ce qui m'amuse, c'est que les gens ont peur de ça. Ceux qui ne connaissent pas les codes, ça leur fait peur. Il y avait le festival d'Hellfest, je ne sais plus quand, et c'était à mourir de rire, parce que c'est un des festivals où vous avez quand même, quand vous rentrez là-dedans, c'est très impressionnant. Mais les gens sont adorables.
Oui, oui,
tout les à gens fait. Sont... Mais pourtant, quand vous faites un documentaire, vous avez l'impression qu'ils sont tous des tarés. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement quand on n'a pas les codes. Et c'est toujours pareil. Je pense qu'avec cette histoire d'Illuminati, en revanche, il y a une face sombre, et ça c'est vrai. Il y a une part de conspirationnisme qui s'est souchée, qui s'est greffée sur les Illuminati.
Ça me semble plus inquiétant.
Et voilà. Et qui véhicule des théories assez nauséabondes. En gros, on va être simple, les Illuminati dominent le monde à travers les francs-maçons et les juifs. Voilà. Donc ça véhicule derrière des théories d'extrême droite assez poussée, et c'est là où ça ne va pas, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire « Ah mais oui, mais donc ça, c'est la réalité. » Mais je pense qu'il faut faire confiance aussi, et il ne faut pas prendre les lecteurs pour des crétins, ni pour les gens qui aiment ça. Les gens font la part des choses. Les gens sont quand même, ont une part de raison.
Alors moi, j'aurais peut-être maintenant une question pour le franc-maçon, à savoir, est-ce qu'avec cette montée de reconnaissance des Illuminati, d'intérêt pour les Illuminati, est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont venues vers la franc-maçonnerie pensant trouver des informations sur les Illuminati ou pensant se rapprocher ?
Deux mots sur les Illuminati. J'ai l'habitude de dire que les Illuminati historiques dont parle Eric ne l'étaient pas. Je m'explique. Au XVIIIe siècle, il y a ces deux courants, le courant des dits des Lumières, qui pensent que l'on peut accéder à la vérité par le seul exercice de la raison. Et en face, il y a ceux qui croient que la vérité tombe du ciel et qu'elle est révélée. C'est cela les illuminés. Et à la fin du XVIIIe siècle, les illuminés sont à la mode. Par un phénomène de réaction naturelle, je dirais. Le siècle vient de bouffer 50 ans où on explique que l'on peut accéder à la vérité par le seul exercice de la raison. Donc par un simple phénomène de réaction, il y a ceux en face qui disent « mais non, pas du tout, la vérité ne peut venir que du ciel ». Donc il y a les illuminés à la fin du XVIIIe siècle, c'est pour ça que je parlais de cycle en permanence, sont à la mode. Et Weishaupt et ses camarades, eux, ils ne sont pas du tout dans ce courant-là, puisque eux, leur projet est un projet révolutionnaire pour établir une société démocratique et républicaine très avancée par rapport à l'état de la société actuelle. Et ils se servent, ils s'appellent illuminés, j'ai envie de dire c'est une opération publicitaire et de marketing, parce qu'ils savent que le courant illuminé est à la mode, donc ils savent que le message va pouvoir passer plus facilement. Voilà pour les Illuminati. Bien sûr que régulièrement, on n'a pas des, pour revenir à la maçonnerie, on n'a pas des illuminés qui veulent entrer en maçonnerie pour découvrir les secrets de la maçonnerie, mais on a de sérieux allumés, oui. On a de sérieux allumés, mais les processus de recrutement de la maçonnerie font qu'on les repère très vite et donc ils sont écartés du recrutement.
Oui, je pense là en particulier à des jeunes qui suivraient une mode, puisque vous dites que dans les concerts de Beyoncé, il y a des symboles qui pourraient être illuminati ou maçonniques qui sont utilisés en espérant rentrer en maçonnerie pour découvrir des grands secrets en découvrant l'ésotérisme caché.
Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée il y a un mois, puisque vous faisiez référence à la montée de certains courants dans la société française. Et il y a effectivement depuis quelque temps un regain de gens qui pensent qu'il y a un complot. Alors, c'est drôle parce qu'il y a toujours les juifs dans les complots, il y a toujours les francs-maçons. Le sommet, c'est vraiment quand on est juif, franc-maçon, noir et homosexuel. Alors là, on est au sommet du sommet. Et il y a quelques semaines, il y avait une manifestation devant une désobédience maçonnique la plus importante, qui est le Grand Orient, une manifestation d'un groupe jeune et extrémiste, pas franchement d'un extrémisme de gauche, mais plutôt de l'autre côté. Et le grand maître du Grand Orient est sorti sur le trottoir et il leur a dit « Entrez, il n'y a rien à cacher, entrez ». Et bien finalement, ils avaient peur d'entrer. Ils préféraient rester avec leur fantasme à l'extérieur que de rentrer à l'intérieur. Intéressant, non ?
Très intéressant, parce qu'on voit bien que la place des fantasmes, des légendes est telle que s'il y a une bataille à gagner, elle se situe à ce niveau-là. Les représentations, l'imaginaire...
Oui, dernier point, je crois quand même que tout ça relève. Après tout, tout à l'heure, je disais, qu'est-ce que de devenir franc-maçon ? C'est, on est pharmacien et on se retrouve chevalier. Bon, je veux dire par là que dans l'âme humaine, toute vie humaine, individuelle, on se raconte une histoire. On se raconte une histoire. Notre vie, c'est l'histoire qu'on se raconte sur notre vie. Donc cette nécessité à se raconter « il était une fois », eh ben nous l'avons tous. Alors les uns, ils se racontent qu'ils sont vampires, les autres, ils se racontent qu'ils sont chevaliers, les autres, bon. Mais l'imaginaire est au cœur de la pensée humaine. Il n'y a pas de pensée humaine si on ne se raconte pas à la fois « il était une fois » et également, il sera une fois. Je veux dire par là que l'utopie est le moteur du progrès humain et du développement des sociétés humaines. Ça sera mieux demain. Et l'imaginaire, ben c'est le carburant du moteur. Mais c'est inhérent à la pensée humaine et heureusement. Alors après, on se raconte des histoires qui sont plus ou moins... éloigné du réel ou pas.
Alors je ne sais pas si les histoires que l'on raconte aux imaginales sont vraiment éloignées du réel, parce que j'entends parfois des personnes dire « je préfère les histoires vraies ». Mais il se trouve que chaque fois qu'il y a une biographie, qu'il y a une histoire vraie qui est racontée, elle est racontée de façon complètement subjective. C'est toujours une personne qui la raconte et qui est obligée de se relégender et de rajouter une part de sens dans les faits réels tels qu'ils se sont passés. Et c'est un peu ce que vous faites dans vos enquêtes. Il y a quelque chose qui paraît mystérieux et on a besoin de ce sens. Et on le raconte, mais finalement, la frontière entre le vrai et la réalité n'est pas si...
Excusez-moi, mais je voudrais passer la parole à Eric pour répondre à ça. À l'Eric qui a été journaliste. Il n'y a pas de vérité vraie. C'est quoi la vérité vraie ? Tout individu porte un regard sur des faits. Alors il y a des faits réels, bon, et il y a une façon de raconter ces faits réels. Le journaliste le sait très bien, le romancier le sait autrement, mais l'histoire vraie, moi je ne sais pas ce que c'est.
Justement, le rôle du romancier ou du journaliste par rapport aux faits.
C'est simple, moi je suis en tant que romancier, je ne suis pas en tant que journaliste. Le journaliste doit raconter la vérité. Le romancier peut se permettre de faire n'importe quoi, dit les choses autrement. Prenez l'ordre du temple, les Templiers, historiquement, l'ordre du temple n'existe plus. Il n'y a plus aucune trace historique d'une persistance de l'ordre du temple. Donc ça, on pourrait dire, c'est la partie journalistique, c'est le réel. Le romancier va dire, pas du tout. En fait, l'ordre a survécu dans l'ombre et le secret de l'ordre du temple ou le trésor des Templiers se trouve à tel ou tel endroit. Et pour faire ce travail de fiction, en revanche, il va s'appuyer sur des faits réels ou sur des choses dont il va donner un sens particulier. Mmh. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'on peut donner du sens à tout. Et quand vous prenez par exemple l'affaire de Rennes-le-Château, c'est ce qui a donné naissance au Da Vinci Code. C'est à la base une histoire d'un curé qui arrive dans un petit village de l'Aude. On ne sait pas comment, tout d'un coup, en l'espace de quelques années, il commence à avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il a fait peut-être des trafics de messes, il a peut-être fait d'autres choses. En tout état de cause, il restaure l'église, il se bâtit un mini château, il organise des fêtes somptueuses. À partir de là, de ces faits, le journaliste dit, bah voilà, il y a quelque chose d'objectif, ce petit curé de campagne a trouvé quelque chose, a de l'argent, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, des années plus tard, il va y avoir un autre journaliste qui s'appelait Gérard de Sède, qui dit, mais attendez, en fait, ce qu'il a fait, il a découvert, il y a un fabuleux trésor. Il va extrapoler par rapport à des faits. Et vous avez des années plus tard, un romancier qui s'appelle Dan Brown, qui va dire et qui va s'inspirer d'autres d'une tradition initiatique qui est liée autour de René Chauzot, qui dit, non, ce qu'il a découvert, en fait, moi, je vais puiser ça, c'est la persistance, la descendance cachée de Jésus, qui est aussi une des traditions accolé à Rennes-le-Château. Donc le romancier, il peut tout se permettre. C'est ça qui est fascinant. Ceci étant, nous, à la fin de nos bouquins, on met toujours voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux.
D'accord,
voilà.
Vous faites bien la part des choses, histoire de ne pas laisser planer le doute.
Non, c'est aussi pour donner aux gens l'envie d'aller plus loin, de découvrir si, par exemple, l'ordre du temple vous passionne, ben, vous avez creusé, allez voir des choses, mais essayez de vous baser sur des choses qui sont quand même, pour le moins, qui tiennent la route. Ne prenez pas pour argent comptant les sites internet qui vont vous dire, bah oui, l'ordre du temple a survécu, parce que cette légende-là, non seulement vous l'avez, mais par exemple, les francs-maçons eux-mêmes l'ont propagée. Jusqu'au 19e siècle, les francs-maçons étaient persuadés, une gros courant de franc-maçonnerie était persuadé qu'ils descendaient de l'ordre du temple. Vous avez des grades qui font très explicitement référence à Jacques de Molay, le grade du chevalier Cadoche.
Tout à fait. Tout à fait. Même les francs-maçons, d'où la nécessité justement de faire très nettement la liaison, la différence entre l'imaginaire et la réalité. Les francs-maçons sont certainement, en tout cas ils se revendiquent comme tels, les héritiers spirituels des Templiers, en ce sens où ils se veulent une chevalerie spirituelle. Maintenant, à un moment donné, au moment de la création de la franc-maçonnerie moderne, ils ont carrément raconté, mais pour rendre leur topo plus authentique, ils ont carrément raconté qu'ils étaient les héritiers réels des chevaliers. Est-ce que ceux qui l'ont raconté le croyaient vraiment? Ou est-ce que c'était pour faire entendre et comprendre qu'ils étaient une nouvelle chevalerie spirituelle? Moi, j'ai tendance à penser que ceux qui ont écrit les rituels de la franc-maçonnerie n'étaient pas plus idiots et pas moins rationnels que vous et moi, et qu'ils avaient très bien compris l'intérêt qu'il y a à raconter une histoire pour faire entendre quelques vérités. Après tout, les mythes, les légendes, et ça n'est pas nouveau, et ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un poète qui s'appelait Jean Cocteau, les mythes sont des mensonges qui racontent une vérité. C'est-à-dire, non pas une vérité historique, mais une vérité ontologique. Et ça nous renvoie au sens, à la recherche du sens.
Sur les faits, je vous dis juste un fait, pour qu'on comprenne bien que parfois la réalité dépasse la fiction. Juste. Dans le Règne des Illuminati, on parle d'une organisation qui s'appelle le Bohemian Club. Bon. Le Bohemian Club, on a trouvé ça au début, on a été alerté par des gens qui nous ont alerté sur le fait qu'il y avait des théories conspirationnistes qui nous disent voilà, il y a une société secrète américaine qui se réunit dans les bois au nord de San Francisco, et là ils font des rituels un peu bizarres. Bon. On étudie ça, au début j'ai pas cru, je me suis dit c'est des bêtises, ça n'existe pas. Réflexion de base. Bon. Après, je commence à enquêter et je me dis, mais non, en fait, ça existe vraiment. Alors, et ça va très loin. Le Bohemian Club, c'est une organisation qui comprend 2500 membres. Ils se réunissent une fois par an en juillet au nord de, à 100 km de San Francisco, dans le comté de Sonoma. Et là, ils ouvrent leurs travaux avec un rituel devant une chouette de 12 mètres de haut. Cette chouette existe en pierre. C'est une chouette qui pèse plusieurs tonnes. Elle existe réellement. Alors là, vous allez me dire, bon, c'est quelques allumés, c'est des gens... Non, vous aviez qui parmi les membres du Bohemian Club? Vous aviez Kissinger, vous aviez J. Edgar Hoover, patron du FBI. On a des photos de Ronald Reagan et du président Nixon qui sont au Bohemian Club et qui assistent à des conférences, puisqu'après, ça sert aussi pour des gens qui font des conférences, qui tiennent des conférences. Alors, pendant des années, ce truc-là, ça a été nié. Les journalistes n'ont pas enquêté là-dessus. Ils ont dit c'est tellement énorme. Vous imaginez un peu le président Reagan devant une chouette enflammée. Et je ne vous dis pas en plus parce qu'il y a un rituel. Le rituel, ça commence avec ce qu'on appelle la crémation des soucis. On brûle une effigie et on lève les bras au ciel. Vous imaginez des présidents des États-Unis faire ça? Bah pourtant, oui. C'est vrai. Eh ben oui. Et ça a été, et non seulement ça, et vous le trouvez même, alors vous avez un rapport du Quai d'Orsay sur les lobbies d'influence aux États-Unis, et vous trouvez l'existence du Bohemian Club comme réseau conservateur. Et voilà, ça c'est un fait journalistique. Alors nous, on l'utilise dans notre roman, et je vous conseille d'aller de taper juste Bohemian Club sur Internet, vous allez voir les choses ahurissantes, ça a été filmé, il y a quelqu'un qui s'est introduit en cachette, mais après tout dépend ce qu'on va mettre derrière.
Oui.
Et Eric. Juste pour une petite histoire, c'est que le symbole, l'emblème du Bohemian Club, vous avez même un écusson gravé à l'entrée de la propriété, puisque la propriété existe, elle est fermée au public, et vous sur cet écusson, vous avez une chouette. Quel était l'emblème des Illuminati ? Une chouette.
Et je termine. Pourquoi la chouette ? Et c'est pas parce que les Illuminati. Dans toutes les traditions occidentales, la chouette, c'est le symbole de quoi ? C'est quoi une chouette ? C'est quelqu'un qui voit dans la nuit. C'est le symbole de la sagesse et de la lumière, c'est-à-dire de la lucidité. Et comme, mais là, ça nous amènerait trop loin, comme l'homme n'a pas finalement beaucoup d'imagination, ou en tout cas beaucoup moins qu'on croit, si la chouette est partout dans toutes les traditions occidentales et orientales le symbole de la sagesse, eh ben c'est parce que la chouette, elle voit... dans la nuit, exactement de la même façon que dans toutes les traditions, la montagne est toujours sacrée. Pourquoi la montagne est toujours sacrée ? Parce que le mec, les humains, ils sont horizontalement là, à terre, qu'ils imaginent qu'en haut, il y a des dieux, et que pour être plus près des dieux, ben, faut monter la montagne. On le voit en Asie, voilà. Alors, on n'est pas obligé de faire les liaisons... Illuminati, ce sont ce que l'on appelle général. Des archétypes.
Oui. Bien, on arrive vers la fin de cette heure. À vous écouter, je repensais à la fable du laboureur et ses enfants, à qui on dit il y a un trésor là-bas, et finalement le vrai trésor, c'est d'avoir labouré le champ et d'avoir cherché le trésor. Et merci. À vous tous pour cette table ronde sur les mystères et l'ésotérisme.
Merci. Merci.
Et je crois que vous êtes encore un peu sous la bulle du livre. Ah, vous partez. En tous les cas, j'espère que vous avez eu plaisir à rencontrer Éric Giacometti, Jacques Vialbezet et Matt Verdier.